se passer une bonne semaine. Toujours prospère à tous égards, n'est-ce pas? Notre réussite est assurée. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de plusieurs merveilles dans les Écritures, afin que vous soyez assujettis à ce que Dieu a pour vous. Amen. Parce que Dieu n'a que des belles choses pour nous, que des bonnes choses pour nous, que des bons plans pour nous. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29, et je crois aux alentours du verset 11, car elle dit « Je sais les plans que j'ai pour toi, des plans de bonheur et non de malheur, afin que tu puisses avoir une fin prévisible. » Vous voyez ça, une fin prévisible? Beaucoup de gens disent « Je ne sais pas comment on va finir ma vie. Je ne sais pas comment on va finir ce projet. On se lance, on verra comment ça finit. » Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu vous a donné une fin prévisible? Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs parce que nous vivons selon ce que Dieu a. Oh là, attendez-moi. Selon ce que Dieu a pour nous. Parce que Dieu souhaite qu'on puisse être enseigné par sa parole et que sa parole forme en nous une image de victoire à l'image du Christ. La Bible dit, nous contemplons le visage dévoilé comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Donc la parole de Dieu est un miroir qui nous montre le vrai nous, c'est-à-dire le nous glorifié, le nous réussi, n'est-ce pas ? Le nous qui avance, dites le vrai moi, est défini par le miroir de la parole de Dieu. Et c'est la vérité, c'est-à-dire que tout qui vous êtes, tout qui vous pensez être, peut être erroné. Il y avait cette histoire qui est sortie qui s'avérait finalement être, n'est-ce pas, fausse, mais c'était une histoire qui débattait sur l'idée comme quoi cette jeune femme avait été élevée par des loups. Ça vous dit quelque chose, cette histoire? C'était passé partout, elle avait écrit tout un livre où elle avait été soi-disant abandonnée dans la forêt et élevée par des loups. Et bien que factuellement cette histoire ne s'est pas produite, elle reflète quelque chose qui peut être perçu aujourd'hui. C'est que cette femme, en tout cas dans l'histoire, le protagoniste de cette histoire, se comportait comme un loup alors qu'elle était pleinement humaine. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas qui elle était. Et donc, quand une personne ne sait pas qui elle est, elle va se comporter d'une manière contraire à qui elle est. Vous voyez un peu l'idée? C'est pour ça qu'il y a, si on prend au niveau culturel humain, par exemple, il y a des cultures dans lesquelles certains comportements sont très bien vus et d'autres très mal vus. Si vous prenez par exemple notre culture, il y a un symbole qui est associé à un génocide du XXe siècle, le nazisme, qui est extrêmement mal vu chez nous, au point qu'on peut finir devant un juge pour l'avoir représenté sous une forme quelconque. Et dans d'autres pays, presque l'exact même symbole, juste inversé, est un symbole de paix et de prospérité. Je parle de la croix gammée, hein, qui était donc le symbole nazi par excellence. Donc chez nous, ce symbole a été associé avec la destruction, la mort injuste des gens. Ce symbole a été associé à la pauvreté, à la famine et à une mort ambiante. Tandis que dans certains pays, c'est associé à la prospérité, à la bonne protection. Comment ça se fait? Parce que ce qu'on perçoit, n'est-ce pas, peut changer d'un côté à l'autre, d'une culture à l'autre. Donc en tant qu'enfant de Dieu, notre but c'est d'avoir la culture, dites la culture du royaume du Seigneur. Parce que cette culture du royaume de Dieu nous fait vivre dans ce dit royaume. Vous voyez un peu l'idée? Il y a un principe qui s'appelle le multiculturalisme, qui d'ailleurs est toujours un peu incompris. Le multiculturalisme ne dit pas qu'on mélange les cultures, c'est que des cultures vivent ensemble sur un même territoire. C'est ça le vrai multiculturalisme. Et en fait, dans le multiculturalisme, par exemple, on a un cas dans certains pays européens où il y a des quartiers entiers qui ont été dominés et qui sont encore aujourd'hui dominés par la loi musulmane qui s'appelle la charia. D'accord? Alors, elle n'est pas exécutée d'une manière aussi sévère que dans les pays arabes, par exemple. Mais par exemple, une femme qui ne se couvre pas le visage peut recevoir de l'acide en plein visage. Dans ces endroits-là, en Europe. Alors qu'en Europe, c'est quelque chose qui est complètement incongru de jeter de l'acide sur quelqu'un. C'est impensable, vous voyez? Pourtant, dans ces quartiers-là, c'est développé une culture. Donc, on peut être dans un territoire sans pour autant appartenir à la culture du territoire. Donc, nous sommes dans ce monde, mais nous avons une culture du ciel. La Bible dit que nous sommes citoyens des cieux. Dites « Je suis citoyen des cieux ». La Bible va même plus loin, elle nous appelle ambassadeurs, ce qui veut dire qu'on est vraiment dans un territoire étranger, tout en représentant les intérêts du Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de agir. Agir, dites agir. Alléluia. Agir face à l'inévitable, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Il y a des choses dans la vie qui sont complètement inévitables. Par exemple, toute personne grandit. C'est impossible de ne pas grandir. C'est impossible de ne pas avoir son corps qui passe d'enfant à adolescent à adulte. Il y a des choses qui sont inévitables. Genèse chapitre 1, verset 1, c'est le premier verset de la Bible. Et donc, l'inévitable est quelque chose que beaucoup de gens cherchent à fuir. C'est une des raisons pour laquelle les gens ne viennent pas à l'église. Vous avez remarqué ça, d'ailleurs, la Bible dit aussi, c'est que quand les gens sont dans l'écoute de la parole de Dieu, ils sont confrontés aux inadéquaties de leur vie, aux manquements de leur propre vie, et ça fait qu'ils ne veulent pas être confrontés à ces choses, mais ces choses-là sont inévitables. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu. Vous avez remarqué que la Bible n'argue même pas l'existence de Dieu. C'est intéressant ça. Hein. Elle arrive et dit, au commencement, Dieu. Aucune discussion, aucun argument, aucune dispute sur le fait que Dieu est. C'est intéressant ça. Hein. Au commencement, Dieu, point. Pas de, il y a une personne qui s'appelle Dieu, il y a quelqu'un qui est Dieu, il y a un concept de Dieu dans l'univers. Non, au commencement, Dieu, c'est tout. Rien de plus, rien de moins. Donc Dieu est absolument, implacablement réel. Et Dieu est bon, dites Dieu est bon. Dieu a toujours voulu que les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Dieu savait qu'il allait avoir affaire à différents types d'êtres humains. Il y a les êtres humains rétifs, c'est ceux qui refusent d'écouter. Il y a les êtres humains qui se soumettent. Il y a ceux qui sont insensés, la Bible appelle. Et Dieu savait qu'il allait avoir affaire à une multitude, vous voyez ? Une multitude d'êtres humains différents. Et dans son grand amour, la Bible répond à tous les questionnements issus de chaque groupe d'êtres humains. Vous voyez un peu l'idée ? La question de l'existence de Dieu est absolument inévitable. Et c'est ça que j'aimerais qu'on dise, agir face à l'inévitable. La question que Dieu existe, ou la question même, le fait de se poser cette question, la Bible dit, dans, je crois c'est dans Lamentation ou dans Ecclésiaste, plutôt Ecclésiaste, que Dieu a mis dans chaque être humain la pensée de ce qui est éternel. Ça veut dire que tout le monde se pose la question si Dieu existe ou pas, au moins une fois. Je vais même plus loin, tout le monde sait que Dieu existe. Les gens jouent un jeu de pensée avec la question de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on observe essentiellement en Occident. Et je me suis posé la question pourquoi. Et ça explique aussi plusieurs autres questions de pourquoi, par exemple, en Occident, des gens se comportent, par exemple, politiquement, d'une manière complètement dénuée de sens. À poser même la question si un homme est un homme ou une femme est une femme. Pourquoi est-ce qu'on peut arriver à des telles bêtises ? Parce qu'en fait, on s'ennuie. Tous nos besoins ont été remplis. Tous nos besoins en Occident sont remplis. Et on a besoin de créer des faux problèmes. Si on arrivait même, ça c'est mon avis politique, si on arrivait même à une utopie, on va dire communiste ou socialiste, où on a tous les besoins qui sont remplis, plus besoin de bosser, on passe sa journée sur une chaise longue, je pense que l'être humain créerait des problèmes à résoudre. L'être humain a été créé à l'image de Dieu et nous avons été créés pour résoudre des problèmes. Donc quand vous avez une situation qui vient contre vous, sachez que c'est l'occasion de résoudre un problème. L'être humain est fait pour ça. Dieu nous a créés pour réparer. Dieu nous a créés pour entretenir. Si vous observez, il y a une chambre qui est magnifique. Vous la laissez, vous ne faites rien dedans. Elle va se détériorer. Intéressant, hein ? Il y aura de la poussière, il y aura des traces. Il y a toujours quelque chose à faire. L'être humain est fait pour maintenir et élever les choses. Vous voyez un peu l'idée ? C'est à ça que l'être humain sert. Amen. Et donc Dieu a mis ça en nous. Et donc la question de Dieu est inévitable. On doit se poser cette question et tous les êtres humains ont la réponse au fond d'eux. Psaume 14, verset 1. Et vous allez voir quelque chose qu'on doit agir. L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. La Bible assimile une personne qui affirme qu'il n'y ait point de Dieu, qu'elle est insensée. Pourquoi ? Je vais vous montrer pourquoi. Proverbe 1, 7. Alléluia. Proverbe 1,7 qui nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et l'instruction. » Donc il dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. » Notez qu'il n'a pas dit « la croyance au Seigneur ». Il a dit « la crainte ». Et quand il dit « la crainte », il ne parle pas d'avoir une peur nocive. Il parle de respecter Dieu, d'être considéré pour Dieu, ou considérant plutôt pour Dieu, d'avoir Dieu en tête, d'avoir les choses de Dieu dans son esprit. Et il dit, si vous voulez marcher dans la sagesse et la connaissance, la première chose, c'est de craindre Dieu. Et de nouveau, craindre ne veut pas dire avoir peur, ça veut dire d'être dans une profonde révérence pour Dieu. Ok ? Et donc, la question de l'existence de Dieu, j'aimerais qu'on l'aborde un petit peu aujourd'hui pour vous aider. La personne du Christ, comprenez, Jésus-Christ est l'incarnation de Dieu. Colossiens chapitre 1. Chapitre 2, verset 9, excusez-moi. Colossiens chapitre 2, verset 9. Jésus-Christ est l'incarnation de la personne de Dieu dans un corps humain. Vous voyez un peu l'idée ? La Bible dit, car en lui, et ça parle de Jésus-Christ, habite toute la plénitude de la déité, déité ça veut dire la divinité, ce qui est ce de Dieu, corporellement. Donc il dit, le corps de Jésus était l'incarnation physique de la divinité, encore plus après sa résurrection. Parce que Jésus, bien sûr, est né comme un bébé. Vous imaginez la foi qu'il fallait avoir pour voir un bébé et dire c'est Dieu qui a pris une forme humaine. J'ai une connaissance qui a fait un rêve une fois. Dans ce rêve, il était un des disciples du Seigneur. Et Jésus venait de ressusciter les gens des morts, il venait de guérir les malades, toutes les belles œuvres que Jésus faisait. Amen. Et il a dit, à un moment, Jésus l'a regardé, il a dit, « Dis-moi, Andrew, qui dis-tu que je suis ?» Et il avait en face de lui une personne qui semblait un être humain normal. La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. C'est-à-dire que ce n'était pas un surhumain, ce n'était pas un super-héros, Jésus, physiquement parlant. Bien sûr, les miracles et les signes qui l'accompagnaient soutenaient le fait qu'il était Dieu en chair. Mais par contre, physiquement parlant, il ne faisait pas 5 mètres. Vous voyez un peu l'idée ? Il n'était pas super musclé. Enfin, il était baraque, mais dans le sens, il n'était pas spécialement musclé par rapport... Oui, Jésus était musclé, les gens ne savent pas. Jésus était très musclé, il était charpentier, rappelez-vous. Jésus était très très fort. La preuve d'ailleurs, ça c'est une preuve historique, à un moment ils essaient de lui donner du vin avant la crucifixion, une espèce de boisson qui l'endormirait. C'est parce qu'il était très robuste et les soldats, ils avaient peur que ça ne suffise pas, qu'il soit 4-5 sur lui. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus avait décidé de se donner, il n'allait pas résister. Vous voyez un peu, il y a plein de choses qui nous montrent que Jésus était très 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 baraque physiquement. À un moment, il y a des gens qui veulent l'embêter et la Bible dit qu'il les a juste poussés pour passer. C'est tout, il est juste passé au milieu d'eux. Vous imaginez un peu ? Et donc, cet homme était dans ce rêve-là, et là, Jésus le regarde et dit, « Suis-je le Fils de Dieu ?» Quelque chose comme ça. Et là, il a dit, « Ça a pris toute la foi qui était à l'intérieur de moi pour dire oui, c'est Dieu en chair, cette personne. » Amen. Donc, si on dit que Jésus-Christ est Dieu, cela veut dire qu'il est l'incarnation de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament. Acte 3:18, on va voir ce que la Bible nous dit. Jésus-Christ a été annoncé depuis des siècles avant même sa naissance et sa venue. Et c'est là que j'aimerais qu'on voie sur la question logique de qui est Dieu. Regardons ce que la Bible dit. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de tous les prophètes. Hein, à savoir que son Christ devait souffrir. Là, il parle du fait que Jésus est mort, crucifié. Donc, il y avait déjà des prophéties, vous voyez, qui avaient été annoncées avant que Jésus-Christ ne vienne au sujet de sa crucifixion. Et on va le voir en détail, vous en faites pas. Luc 24, verset 27. J'aimerais que vous vous rendiez compte à quel point la Bible que vous tenez dans les mains, qu'elle soit sous format papier ou sous format informatique, peu importe, cette Bible est la réponse de Dieu à l'humanité. Regardez ce qui est écrit. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. Donc là, Jésus-Christ, après sa résurrection, a pris ses disciples. Et il a commencé par Moïse. Moïse, c'est l'Ancien Testament. Les prophètes, c'est l'Ancien Testament. Il a dit, regardez, ça parlait de moi. Ça parlait de moi. Ça parlait de moi. Vous voyez un peu l'idée ? Vous suivez jusqu'ici, n'est-ce pas ? Donc ça veut dire qu'il y a des prophéties qui ont été données par les prophètes au sujet de Jésus qui allait venir. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde cette question non seulement, bien sûr, sous une approche théologique, c'est-à-dire de reconnaître que c'est Dieu qui est derrière, mais j'aimerais qu'on l'approche ça d'une question logique, d'une question presque scientifique. Vous êtes prêts ? C'est pour ça que je dis que tout le monde sait qu'il y a un Dieu. En toute logique, si une personne me dit « je ne crois pas en Dieu », je vais partir de trois principes. La première, c'est qu'elle est malhonnête, elle ne dit pas la vérité. Vous voyez un peu l'idée ? Je ne crois pas en Dieu, mais au fond d'elle, elle sait qu'il y a quelque chose qui la condamne. Numéro 2, la personne a souffert dans les mains des chrétiens. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas le plus courant, mais ça arrive. Des gens qui ont été maltraités, par exemple, qui ont été dans une école chrétienne et qu'ils ont subi des abus, ou qui ont été abusés par un pasteur. Et en général, ces gens-là vont, l'expression bien vaudoise qu'on dit, je crois, jeter le bébé avec l'eau du bain, et ils ont tout jeté d'un coup. Ils ont dit, bon, si c'est ça être chrétien, je n'ai pas envie d'en entendre parler. Et le troisième, c'est des gens qui n'ont pas réfléchi sincèrement à la question. Mais toute personne qui aborde la question de Dieu arriverait au même constat que Jésus-Christ est le Seigneur de leur vie. J'ai demandé à une intelligence artificielle, sans me connecter, parce que je ne voulais pas qu'elle me réponde selon ce qu'elle... Parce qu'en fait, j'utilise des fois les intelligences artificielles pour analyser le grec et l'hébreu de la Bible. Donc je pense que l'intelligence artificielle s'est doutée que j'étais très chrétien. Donc je n'avais pas envie qu'elle me réponde selon ça. Donc je me suis déconnecté. Enfin, j'ai utilisé même un autre appareil pour le coup, et je lui ai posé la question, y a-t-il des contradictions dans la Bible? Et j'ai précisé des contradictions à l'interne, c'est-à-dire pas avec, par exemple, une découverte aujourd'hui ou un truc comme ça, vraiment. Et il m'a dit, il y a trois contradictions dans la Bible, mais qui peuvent toutes être expliquées, en fait, parce qu'elles ne sont pas des contradictions directes. C'est juste des points de vue différents du même événement et des détails plus ou moins donnés. Par exemple, une des contradictions, entre guillemets, c'est le fait, comment est mort Judas? Est-ce qu'il est mort pendu? Il y a un évangile qui dit qu'il est mort pendu, et un autre évangile dit qu'il a été retrouvé à terre, le ventre ouvert. En fait, c'est très simple. Le champ était un long champ comme ça, il est pendu, et la corde est tombée, et en tombant, ben, ça lui a ouvert le ventre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une contradiction en tant que telle. C'est pas comme, par exemple, un qui dit « Judas est mort pendu » et l'autre « Judas est mort noyé ». Vous voyez un peu? Il n'y a pas de contradiction de ce type dans la Bible. Ça n'existe pas. Et c'est d'autant plus impressionnant que la Bible a été écrite par plus de 40 personnes, sur plusieurs millénaires, des cultures différentes. C'est merveilleux. J'aimerais qu'on voit quelque chose. Okay. Donc, l'Ancien Testament a été écrit au fur et à mesure, vous savez. Ce n'est pas une seule personne qui a écrit l'Ancien Testament. Des dizaines de personnes ont écrit l'Ancien Testament. Des prophètes, des scribes de prophètes. Moïse a écrit une partie de l'Ancien Testament, on pense. Jérémie, Ésaïe, tous ces gens-là ont écrit de l'Ancien Testament. Vous êtes là? Donc, écoutez bien. L'Ancien Testament a été écrit bien avant Jésus-Christ. Bien avant Jésus-Christ. Et il y a cette question qui est posée, qui est fort intéressante, c'est comment est-ce qu'on sait aujourd'hui? C'est une question qui est restée ouverte depuis très longtemps, vous savez. Est-ce que les livres qu'on a de l'Ancien Testament, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, Esther, Juge, tous ces livres-là, Ésaïe, Jérémie, est-ce que tous ces livres ont été préservés au fil du temps? Et la réponse est un absolu oui. Maintenant, on n'en a aucun doute scientifique. Et là, ce n'est même pas la théologie qui dit ça, c'est vraiment la science historique. Parce qu'on a découvert en 1948, je crois, des manuscrits dans un endroit qu'on a appelé Qumran, enfin, qui s'appelait déjà Qumran, vers la mer Morte. La mer Morte, c'est ce que la Bible appelle la mer du sel. Pour ceux qui sont allés à la mer Morte déjà ou qui veulent y aller, vous savez que c'est une mer qui est tellement salée, tellement dense au niveau du sel, qu'on flotte dessus. C'est extrêmement mauvais pour la peau d'y aller, il faut aller maximum 10 minutes et ressortir, sinon ça peut être très mauvais, et jamais, jamais plonger la tête. Jamais, 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 jamais. Et donc, une fois, il y avait une fois ce berger. Écoutez bien, c'est fort intéressant. Il y avait ce berger. Il y a son mouton qui s'est enfui. Imaginez, vous gérez votre troupeau. Il y a un mouton qui s'enfuit, qui disparaît. Vous êtes là, hein? Tout le monde est là? Et donc, le mouton s'enfuit. Et il court après le mouton pour essayer de l'attraper. Et le mouton va se cacher dans une grotte. Donc, il y a ce mouton qui s'est enfui dans une grotte. Et il est tout au fond de la grotte. Il l'entend bêler. Je vais vous épargner l'imitation du bêlement. Mais il entendait et ça résonnait. Et en fait, il faut savoir que les bergers de l'époque étaient munis d'outils très élémentaires comparés à aujourd'hui, surtout dans ces régions du monde. La mer Morte, c'est là où, c'est en Israël actuel. Donc, hein. Et ce berger, ce qu'il faisait quand il y avait un mouton qui était coincé comme ça au fond d'une grotte, en fait, le mouton, il n'est pas coincé en soi. Il sait où est la lumière, il n'a qu'à revenir, mais il est têtu, il ne veut pas bouger. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc, au lieu d'aller dans la grotte, se perdre, ne plus avoir de feu, ne plus avoir de lumière, ou pire, rencontrer des serpents ou ce genre de choses, ce que le berger faisait, il prenait une belle pierre et il la lançait au fond de la grotte. Vous voyez un peu l'idée? Et en fait, en frappant les murs de la grotte, ça faisait du gros bruit et le mouton avait peur et il sortait. C'est ça en très gros qu'on faisait, ça marchait. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette pierre et il la lance et il entend des poteries qui se brisent. On a déjà tous entendu quand quelque chose en... n'est-ce pas, un vase se casse, ça fait un bruit spécifique. Et il entend ça, il est là... Oh. Et il a appelé quelques personnes pour venir voir ce que c'était. Et c'était des centaines de vases remplis de manuscrits qui dataient de l'époque. Donc on a fait la datation carbone et tout ça. C'est des manuscrits pour la plupart qui dataient avant du Seigneur Jésus-Christ. Et c'était des manuscrits de la Bible, de Ésaïe, de Jérémie, de tous ces gens dans la Bible. Et on a comparé avec les écrits qu'on a aujourd'hui de la Bible. Et c'est les exacts mêmes. La Bible n'a pas changé depuis 2000 ans, vous imaginez le miracle que ça représente? Allez vous renseigner, hein, c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui exposé. Les manuscrits de la mer Morte, ça s'appelle. Et d'ailleurs, entre nous soit dit, il y a aussi des manuscrits qui n'étaient pas du tout bibliques dans cette rangée-là. C'est juste une espèce de bibliothèque qui avait été mise là. Il y avait des manuscrits sur la Grèce antique, il y avait des manuscrits perses, il y avait plein de manuscrits différents. C'est pas que la Bible, pour le contexte. Donc, j'aimerais que vous compreniez qu'il y a des prophéties qui ont été dites sur Jésus dans l'Ancien Testament que Jésus a accompli. Et j'aimerais vous montrer à quel point le Seigneur fait du sens. Dites Jésus-Christ fait du sens. C'est l'histoire de Peter Stoner, qui était un mathématicien de haut niveau. Il était président des départements de mathématiques et d'astronomie au Pasadena College. Donc un homme très influent dans son domaine. Écoutez bien. Il a pris les prophéties bibliques, il en a pris 8 seulement, 8 prophéties bibliques sur le Seigneur Jésus-Christ, qui ont été écrites des centaines d'années avant Jésus-Christ, que Jésus-Christ a accompli parfaitement. Il en a pris juste 8 et il a calculé la probabilité que ces prophéties puissent s'accomplir dans la vie d'une seule personne. Vous voulez qu'on les voie ensemble ? Michée chapitre 5 et verset 2. Première prophétie biblique. Jésus-Christ est né à Bethléem. Comment s'appelait Lausanne il y a 100 ans ? Il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a 1000 ans. Ah, intéressant. Intéressant. Donc cette prophétie a été écrite des centaines d'années avant Jésus-Christ. Et toi, Bethléem Ephrata, Ephrata en fait c'est un terme pour la localité, bien que tu sois petite entre les milliers de Juifs, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer Israël et duquel les origines ont été d'ancienneté dès les jours d'éternité. Donc il parle bien sûr de Dieu en chair. Des jours d'éternité. Amen. Maintenant, je vais vous poser cette question parce que ça a été écrit quelques centaines d'années avant que Jésus naisse. Comment est-ce que le prophète savait que Bethléem s'appellerait toujours Bethléem ? Intéressant, hein ? Réfléchissez-y un petit peu. Matthieu 2, et verset 1. Ça, c'est l'accomplissement. Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant, on ne va pas étudier ça en profondeur, mais Jésus-Christ est né à Bethléem, comme la Bible avait prophétisé. Vous imaginez un peu la précision ? Comment s'appelait Hérodon à l'époque romaine ? Ebudrodunum, c'est ça un truc comme ça ? Donc, imaginez que non seulement il a dit l'endroit précis, mais le nom n'a pas changé, alors que la Judée à l'époque était sous l'Empire romain. L'Empire romain avait l'habitude de changer les noms des villes hein, quand ils arrivaient. Hein. Ils disaient, finalement, ça ne va pas être Bethléem, on va l'appeler comme ça. Parce qu'ils assimilaient les gens à la culture romaine. Vous voyez un peu l'idée ? Vous êtes toujours là ? Dites Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Le fait que Jésus-Christ, son arrivée, allait être préparée par un messager. Prenons Ésaïe 40, verset 3. Oh, alléluia. C'est pour ça que ces choses doivent vous construire sur l'assurance. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce message « Agir face à l'inévitable ». Parce que ces choses vous montrent que c'est inévitable. La voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans le lieu stérile une route pour notre Dieu. Matthieu 3, 1 à 3. Regardez ça. Or, en ces jours-là, vient Jean le baptiseur prêchant dans le désert de la Judée et disant, repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. Car c'est ici celui dont il a été parlé par Ésaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit à ses sentiers. Donc là, vous voyez que même la référence a été cherchée dans l'Ancien Testament pour dire, mais voilà, il avait été annoncé. Alléluia. Ensuite, entrer à Jérusalem sur un âne. Alors, juste pour le contexte, hein, Jésus est rentré à Jérusalem sur un âne, vous savez ça. Hein. Et beaucoup de gens disent, ah, mais c'est parce qu'il était humble, c'est parce qu'il n'était pas riche qu'il a fait ça. C'est archi faux. Jésus est rentré à Jérusalem. Jésus était extrêmement riche. Jésus est rentré à Jérusalem sur un âne. Vous savez pourquoi ? Parce qu'un cheval ne peut pas monter les pentes de Jérusalem. C'est aussi simple que ça. Seulement un âne arrive à faire ça. C'est bête que ça. Quelqu'un est déjà allé à Jérusalem ? Toi, oui. Mes parents, oui. Moi, oui. C'est, en fait, c'est une pente constante, hein, Jérusalem. Hein. Sauf qu'on arrive tout en haut, là, c'est plat. Mais c'est une pente qui monte. Et en fait, un cheval n'est simplement pas équipé. Ou c'est extrêmement compliqué. Un cheval pourrait, si on le pousse un peu, je pense. Mais simplement, ce n'est pas pratique. Un âne, c'est beaucoup plus pratique. D'ailleurs, dans la Bible, on voit de multiples endroits où c'est un âne qui portait la personne. Intéressant, hein ? Donc, regardons ce que la Bible nous dit. Vous êtes prêts ? Alléluia. Zacharie 9:9. Moi, ce qui me plaît, c'est que le Seigneur a réparti toutes ses prophéties sur des dizaines de prophètes différents. Ça montre que ce n'est pas juste une interprétation. Comment est-ce que des prophètes différents, sur des siècles différents, on peut dire des choses sur le Christ ? Regardez. Réjouis-toi avec transport, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et ayant salut, humble et monté sur un âne, sur un poulain. Donc en fait, le terme poulain, c'est nous on l'assimile à un petit cheval, mais en fait, il parle du petit de l'âne et précise le petit d'une ânesse. Donc Jésus-Christ est arrivé sur un petit âne. Et qu'est-ce qui se passe ? On en voit bien sûr l'accomplissement dans Matthieu 21, 5 à 7. Matthieu 21, 5 à 7. Est-ce que vous êtes motivé de voir ça ? Ça montre que Jésus-Christ est Seigneur, que tout était prévu, que ça veut dire que votre plan de vie a été prévu par Dieu dans la réussite. Si Christ a réussi à prévoir que Jésus monterait sur un ânon, ça veut dire qu'il a prévu que votre vie soit la réussite et que quand il dit que votre vie est la réussite, ça veut dire que c'est vrai. Il dit, attendez, est-ce qu'on peut avoir s'il vous plaît Matthieu 21. Dites à la fille de Sion, voici ton roi, viens à toi. Débonnaire est monté sur un ânesse et sur un ânon. Le petit d'une ânesse. Regardez, il cite l'exacte même chose. Et les disciples s'étant allés et ayant fait comme Jésus leur avait ordonné, l'ânesse et l'ânon émirent leurs vêtements dessus et ils s'y assirent. Jésus est rentré triomphalement à Jérusalem sur le dos d'un petit bébé âne. Maintenant, on va rentrer dans des choses très pratiques. Trahi par un proche. Psaume 41, verset 9. Ça, c'est la prophétie. Psaume 41, verset 9. Regardez ça. Il y a un problème ? C'est pas grave, mon chéri. Psaume 41, verset 9. Au pire, je vous le lis, n'est-ce pas, ça vous va? Vous avez pu le trouver sur vos écritures? Psaume 41, verset 9. Oh, attendez voir. Mon ami intime aussi, en qui je me confiais, qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. Rappelez-vous quand c'est que Judas s'est levé contre lui ? Quand ils ont mangé le pain ensemble. C'est quand même précis, vous vous rendez compte de la précision de cette chose ? Oh là là, c'est absolument abasourdissant. Jean 13, verset 18. Regardez ça. Jean 13, 18. On va regarder ce que les Écritures, c'est toujours les accomplissements de la prophétie que j'aimerais qu'on voit. Vous vous rendez compte à quel point c'est précis ? Si on peut avoir volontiers Jean, chapitre 13 et verset 18. Je ne parle pas de vous tous, moi je connais ceux que j'ai choisis, mais c'est afin que l'Écriture soit accomplie. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. C'est Judas, il a été trahi par un ami proche. Vendu pour 30 pièces d'argent, mais juste ça. Oh là là, vous savez, des fois on voit ces prophéties, on se dit ouais, c'est déjà très stylé qu'elles soient accomplies, mais 30 pièces d'argent. C'est pas, oui, c'est précis, mais il y a aussi une question. Pensez au système économique et à l'inflation, juste ça. C'est comme si quelqu'un dans les années 1600 écrivait que 1000 francs n'allaient pas suffire pour acheter un château, alors qu'à l'époque, ça aurait suffi amplement pour acheter un château. Vous savez, si vous regardez des vieux films des années des westerns, où ils disent voici $1 pour un mois de travail, et les gens disent waouh, $1. Juste ça, l'inflation avait déjà été prise en compte dans la prophétie. Vous vous rendez compte à quel point c'est précis? Vendu pour 30 pièces d'argent. Zacharie chapitre 11 et verset 12. Alléluia. Vous voyez à quel point c'est précis, à quel point Dieu savait ce qui allait se produire. Et de la même manière, si on arrive à mettre notre confiance dans la parole de Dieu d'une telle manière, quel genre de vie on va vivre? Vous voyez un peu l'idée? Zacharie 8 chapitre 11 et verset 12. Et je leur dis, si cela est bon à vos yeux, donnez-moi mon salaire, sinon laissez-les. Et ils pesèrent mon salaire 30 pièces d'argent. Oh! Matthieu 26, verset 15. Ça, c'est l'accomplissement. Ça, c'est la prophétie. Et là, on va voir l'accomplissement. Vous vous rendez compte à quel point c'est précis? Et encore, j'en passe des prophéties. Je parle juste des prophéties du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 26, 15. Qui nous dit... Okay. Parfait, merci. Dis... Que voulez-vous me donner et moi je vous le livrerai. Donc là, il y a Judas qui est arrivé vers les gens pour livrer Jésus-Christ. Il a dit, qu'est-ce que vous me donnerez pour que je puisse vous le donner? Et il a dit, donne-nous 30 pièces d'argent. Je vais, pardon, vous donner 30 pièces d'argent. Regardez ça. Et ils lui comptèrent 30 pièces d'argent. Pas juste 30 pièces, 30 pièces d'argent. Ça aurait pu être des pièces d'or, des pièces de cuivre, non, d'argent. Alléluia. Vous voyez à quel point la Bible est précise. Et en fait, on n'a aucun doute que ces écrits ont été écrits avant Jésus-Christ. Ça, vous vous rendez compte au niveau historique. Il n'y a aucun doute possible. Zacharie 11, 13, donc c'est le verset d'après qu'on a vu, c'est l'argent est ensuite jeté à terre. La Bible est précise, enfin jeté, mis de côté. Regardez. Et je pris les 30 pièces d'argent et je les jetai au potier dans la maison de l'Éternel. En fait, le potier, c'est un endroit. Donc ils ont jeté par terre. C'est exactement ce qui est arrivé. Regardez Matthieu, chapitre 27, versets 5 à 7. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point Jésus-Christ est réel ? À quel point, même si vous ne le voyez pas avec vos yeux, il est réel, il est assis maintenant sur un trône de gloire. Ah, regardez ça. Donc Judas, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Judas est revenu. Il a compris qu'il avait fait une erreur. Et il a dit, je vous rends l'argent. Et les gens, ils ont dit, non, on n'en veut pas. C'est ton argent maintenant. Et la Bible dit qu'il a jeté. Et ayant jeté l'argent dans le temple, il se retira et s'étant allé, il se pendit, donc s'est suicidé. Une personne, et ça c'est quelque chose qui est précis, on va voir une prophétie, Ésaïe 53, verset 7. On va voir une prophétie de Jésus-Christ est resté muet, n'a pas répondu à ses accusateurs. Les gens l'accusaient de toutes sortes de choses, il n'a rien dit. Quand il était amené devant Ponce Pilate, devant Hérode, il n'a pas ouvert la bouche une seule fois. Il a été opprimé et affligé et il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été emmené comme un agneau à la boucherie et a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et il n'a pas ouvert sa bouche. Regardez ensuite, maintenant l'accomplissement. Marc 15, verset 15. Marc chapitre 15 et verset 15. Oh, alléluia, ça vous donne une raison de vivre. Marc chapitre 15 et verset 5. Mais encore, Jésus ne répondit rien, de sorte que Pilate s'en étonnait. Jésus n'a rien dit. Il disait, on t'accuse de ci. Il restait rien, sans un mot. Alléluia. Et ensuite, mise à mort avec des malfaiteurs, donc une exécution commune. Ésaïe 53, verset 12. Et ensuite, Luc 22, 37. J'aimerais que vous vous rendez compte à quel point c'est profond. On a juste vu huit prophéties, huit petites prophéties. C'est spectaculaire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Regardez. Je vais juste vous montrer l'endroit spécial. Et qu'il aurait été compté parmi les transgresseurs, qu'il a porté le péché de plusieurs, et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Vous vous rappelez qu'il a amené une personne à Christ, Jésus, quand il était sur la croix? Et nous, on n'ose pas amener une personne à Christ alors qu'on travaille avec elle. Par contre, lui, il est en train de mourir pour le monde, et même alors, il tourne les gens vers Christ. Même les gens qui l'ont crucifié sont sauvés. C'est les premiers chrétiens. Les premiers gens qui ont confessé Jésus-Christ après sa mort furent les gens qui l'ont crucifié. Toute l'équipe qui l'a crucifié. Vous pensez que Jésus était dans le vide quand il disait « Père, pardonne-leur » ? C'était pas dans le vide, hein. Quand il a dit pardonneur, la puissance de Dieu a été mise et orchestrée pour les sauver. C'est la même chose pour vous. Quand vous parlez la parole de Dieu, vous marchez dans la réalité. Amen. Alors, ce mathématicien qui était donc extrêmement, extrêmement reconnu dans son domaine, s'est dit, quelles sont les chances pour qu'une seule personne, puisse accomplir huit de ses prophéties dans sa vie, d'une manière hasardeuse, entre guillemets. C'est-à-dire que si ce n'était pas planifié par Dieu, n'est-ce pas? Et il arrivait à quelque chose d'assez intéressant. Il arrivait au constat d'une chance sur 1 avec 17 zéros derrière. Et vu que ça ne veut rien dire pour la plupart des gens, il a expliqué ce que ça veut dire. Il a dit, prenez la surface de la France. Prenez des pièces, l'équivalent chez nous des pièces de 50 centimes. Vous voyez la taille, hein? Vous couvrez la France à 1,50 m de hauteur de ces pièces. Je vous rends compte, hein, quel point c'est ridicule les chances que ça arrive, c'est de zéro. Hein. Et dès que vous prenez des pièces de 50 centimes, vous couvrez le territoire français à 1,50 m de haut de toutes ces pièces. Une seconde. Maintenant, vous prenez une de ces milliards de pièces, dizaines, centaines de milliards, je ne sais pas combien de milliers de milliards, et vous la marquez et vous la colorez en vert. Et vous la balancez quelque part en France, n'importe où. Et ensuite, vous prenez une personne aveugle, ou plutôt vous lui bandez les yeux, vous la laissez marcher là où elle veut. Et si elle prend la pièce en question, en creusant, elle fait ce qu'elle veut, c'est le nombre de chances que ça arrive. Imaginez ça juste sur cette pièce. Hein. Imaginez la taille de la France maintenant. Maintenant, rappelez-vous que c'est seulement une chance sur, je ne sais plus combien, pour huit prophéties. Combien Jésus a-t-il accompli de prophéties lors de sa vie? Qu'est-ce que vous pensez? J'en ai montré huit. Qu'est-ce que vous pensez? C'est plus, hein, vous avez compris, gloire à Dieu, c'est plus que huit. 300. Et donc, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire l'autre calcul. Si ces 300 prophéties seraient arrivées à une seule personne par hasard, quelles sont les chances? C'est une chance sur 1 et je ne sais plus combien de zéros, parce que c'est vraiment beaucoup trop, je crois que c'est 158 ou un truc comme ça. C'est en fait plus que le nombre d'atomes dans l'univers connu. C'est juste vous dire. Hein. Donc, je suis en train de vous montrer que Jésus-Christ est vraiment Seigneur, la Bible est vraiment la vérité, Jésus-Christ est vraiment mort et ressuscité et il est assis maintenant à la droite du Seigneur. Et on pourrait parler d'autres prophéties. Comment ça se fait que le prophète a pu dire qu'on a dû lui percer les mains et les pieds alors que la méthode d'exécution n'existait même pas encore? Vous imaginez, c'est comme si quelqu'un dans les années 800, je dis vraiment pas 1800, 800, hein, vraiment, juste avant le Moyen-Âge, qui disent Jésus-Christ, ou plutôt qui disent une personne, parce que Jésus-Christ est déjà venu, une personne va mourir sur la chaise électrique. Vous imaginez ? Alors peut-être, imaginons qu'il l'explique avec ses propres mots, il y a un éclair qui passe dans une chaise en métal qui tue la personne. Ou imaginez l'injection létale, que quelqu'un avait pu dire, ils ont pris une seringue et ils ont piqué la personne avec je ne sais pas quel médicament. C'est aussi aberrant. Quand ils ont dit, ils ont percé les mains et les pieds, comment est-ce que c'est aussi précis ? Est-ce qu'on y pense à ce genre de choses ? À quel point Dieu est réel ? À quel point on doit prendre sa parole au sérieux pour vivre selon ce qu'il a pour nous ? Jésus-Christ nous a laissé des traces pour nous montrer qu'il est absolument le Seigneur de toutes choses. Amen. Et nous devons apprendre à vivre avec cette réalité-là. Jésus-Christ est Seigneur, point final. Vivons dans cette réalité. Alléluia. Il y a tellement de choses. Vous savez que même la manière dont il a été enterré a été prophétisée. Même le fait qu'on a tiré son manteau au sort a été prophétisé, alors que c'était une pratique romaine, ça, c'était pas une pratique juive. Hein. Vous savez ça, hein ? On a dit, rappelez-vous, pour le contexte, hein, les prophètes qui ont écrit sur Jésus-Christ étaient dans un contexte juif, dans un contexte israélite. En Israël, si une personne était exécutée, premièrement, elle n'était pas crucifiée, une première chose, hein, elle était mise à mort soit par le feu, soit par la lapidation, donc la crucifixion n'existait juste pas. Et les gens pourraient dire, mais elle n'existait pas en Israël. Non, la crucifixion a été créée par... faudrait que je retrouve, excusez-moi. Il me semble qu'ils ont été créés par les Perses. C'est les Perses qui ont pris la crucifixion, qui ont créé la crucifixion, et ensuite ils l'ont mis aux Romains. Les Romains ont copié ça. Maintenant, j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Dans le contexte juif, si quelqu'un était mis à mort, on ne volait pas ses biens. Ses biens étaient donnés à sa famille ou alors à la collectivité. Le fait qu'ils allaient tirer au sort un vêtement, déjà le fait de tirer au sort, c'est méga précis, mais en fait, le fait qu'ils allaient même voler son vêtement alors qu'il était crucifié, montrait que c'était vraiment un autre empire. Donc ces gens-là ont vu ces choses venir. Et nous, maintenant, on les vit. Et j'aimerais que vous vous rendez compte qu'il y a des prophéties bibliques qui n'ont pas encore été accomplies. Le retour du Christ, par exemple, en est une. Si la Bible a été si précise pour la personne de Jésus-Christ. Et rappelez-vous, il y a des prophéties bibliques qui même surpassent l'entendement parce qu'elles concernent l'histoire. Vous savez qu'il y a des prophéties bibliques qui ont dit de manière très précise l'exode de Babylone, qui ont parlé de la chute de Nebuchadnezzar et sa relevée avant même qu'il soit né. Quel genre de précision ? Et ça, c'est des trucs historiques. Hein. Même les historiens sont d'accord de dire que ça arrivait. Hein. Et en fait, c'était tellement précis des fois que les historiens ont dit « Non, mais Jérémie a été écrit après les événements. C'est beaucoup trop précis pour que juste il puisse balancer un truc comme ça. » Non, il a été écrit avant. Maintenant, on le sait grâce aux manuscrits de la Mer Morte. On a daté ces manuscrits. Ils datent de bien avant Nebuchadnezzar. Amen. Donc, j'aimerais qu'on se rende compte que Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est Seigneur. Et si Christ a été manifesté au travers de ses prophéties, vous, n'oubliez pas, nous sommes la prophétie du Christ. Nous sommes le résultat de ce qui a été prophétisé. Parce que là, je vous ai juste montré des trucs bateaux de sa vie en plus. Hein. Si vous voyez les prophéties qui ont été faites, il y a des prophéties qui ont été faites en disant il y a une nation qui va se lever. Une nation entière va se lever pour vivre les choses que Dieu a prévues pour elle. Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres pour que nous puissions nous y adonner. Des œuvres de gloire et de victoire. Dites des œuvres de gloire et de victoire. Il y a des œuvres que Dieu a prévues pour vous, pour que vous y marchiez. Pourquoi est-ce qu'on passe notre vie à côté de ces œuvres, à essayer de faire notre propre vie ? Est-ce que vous pensez vraiment que votre vie, et quand je dis votre vie, j'entends pas le fait que vous souffliez, j'entends le fait que vous ayez vos propres idées, vos propres activités. Est-ce que vous pensez vraiment que ça a une valeur pour le Seigneur, si c'est sans lui ? La Bible dit celui qui bâtit une ville. Qui d'entre nous aurait la possibilité de construire une ville entière ? Vous vous rendez compte ? C'est quand même un sacré projet. C'est un beau projet de vie, de construire une ville. Il dit si quelqu'un construit une ville sans le Seigneur, il perd son temps. Que vos projets de vie soient orientés sur Christ. Ne vous en faites pas. À part ça, Jésus-Christ vous aime plus qu'on pense. Plus que vous ne le pensez, c'est sûr. Jésus-Christ vous aime individuellement. Il a prévu pour vous un plan spécifique. Et si Christ, et si Dieu a pu mettre un plan si spécifique sur la personne de Christ, à combien plus forte raison pour vous, son peuple ? Dis, je suis son peuple. C'est la vérité. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes l'incarnation de ce que Christ voulait. Vous êtes le résultat de ce que Dieu voulait au travers de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on doit prendre notre vie au sérieux, amen. Ça veut dire qu'on doit prendre les choses très au sérieux. On va prendre le dernier verset, 2 Pierre chapitre 1, verset 1 à 9. 2 Pierre chapitre 1, verset 1 à 9. C'est pour ça que votre vie doit compter pour Dieu. Votre vie doit avoir de l'importance pour Dieu. Je trouve abasourdissant que des dizaines de prophètes différents. On peut dire des choses. Vous savez, certains étaient de cultures même différentes. Hein. Certains venaient de Babylone. Nebuchadnezzar a écrit un passage de la Bible, vous saviez ça ? Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Daniel. Tous ces gens-là. Moïse, il y avait même des prophètes étrangers. Balaam, c'en était un. Vous voyez ? Siméon-Pierre. Écoutez bien, hein, c'est important. Lisez bien. Esclave et apôtre de Jésus-Christ, là maintenant, on a été transféré. C'est pour ça que j'aimerais que vous compreniez. Votre vie a été embellie par Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on prend ça tellement à la légère ? Vous savez, c'est peut-être, de nouveau, je ne sais pas pour trouver des excuses, je comprends qu'on est dans un pays occidental où la vie est simple comparée à la plupart des pays du monde, mais je trouve abasourdissant que des gens, dans des pays où le christianisme est interdit, vont aller prêcher l'évangile quitte à en mourir, et que nous, avec ce confort, ce luxe dans lequel on vit, cette beauté dans laquelle on vit, on n'est pas capable de parler à un collègue. Vous vous rendez compte à quel point c'est grave ? Qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre leur vie sur la ligne pour prêcher l'évangile parce qu'ils croient en ce message. Ils ont compris que Jésus-Christ était Seigneur. J'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup touché. En bien, vous savez, l'expression aigre-doux, je trouve qu'elle fait du sens dans beaucoup de choses. J'ai vu ces gens, donc c'est des missionnaires qui ont filmé secrètement une valise de Bible qui a été emmenée secrètement en Chine. Les gens se ruent sur la Bible. Ils l'embrassent. Et c'est un vous impersonnel. Et vous ? Vous l'avez lu la dernière fois, il y a 6 mois. Alors que c'est le message de Dieu pour vous. Et après, on s'étonne de ne pas marcher dans la victoire que Christ a pour nous. Alors qu'eux, ils envoient des victoires, je peux vous dire, en Chine. Hein. On aimerait des fois avoir des victoires comme eux. Le problème, c'est qu'on n'est pas persécutés comme eux pour avoir autant de victoires. Dans le sens que, nous, les victoires, c'est... J'ai parlé du Seigneur à ma voisine. Eux, la victoire, c'est... La police est venue et ils se sont convertis, mais ils voulaient tous nous tuer. C'est le genre de victoire que eux voient et voyez. J'ai entendu un missionnaire qui racontait cette histoire. Quelque chose de très touchant. Il arrive secrètement en Chine. Je crois qu'il est passé par... Il est passé par un pays à côté, il n'est pas rentré officiellement. Et il rentre dans cet endroit, il nous expliquait qu'il faisait environ 35 degrés, donc très chaud. Et la pièce était remplie à ras-bord de monde. Il a dit en fait, il était contre le mur comme ça, il y avait ça, et le reste c'était des gens assis. Il n'avait même pas de place pour que j'en bouge un peu comme ça, comme moi je fais. C'était en Chine. Et les Chinois étaient assis, ils n'ont pas bougé pendant des heures et des heures. Il se passe un peu d'eau, un peu à manger ici et là. Il était environ 7 heures du matin. La pièce était remplie dans un pays où si vous êtes chrétien, vous êtes mis à mort dans certains endroits. Hein. C'est sérieux, hein. Camp de concentration, des trucs comme ça. Hein. Et il a commencé à prêcher, il a dit « Mais sur quoi vous voulez que je prêche ?» Et ils ont dit « Tout, enseigne-nous la Bible. » Il dit « Ok, donc il a prêché. » Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours. Il a continué pendant des jours et des jours à leur prêcher juste la Bible. Il a fait donc des aperçus sur toute la Bible. Vous voyez, il a enseigné de Genèse à Apocalypse en faisant des commentaires bibliques et il ne bougeait pas des heures, tous les jours, pour entendre la parole de Dieu. Et des fois, ça me fait poser la question, comment ça se fait que nous, qui avons ce luxe, qui vivons en plus, soyons sincères, hein, l'Occident est le résultat du christianisme hein, au niveau historique. Le fait qu'aujourd'hui on a un tel luxe, qu'on a une telle prospérité dans notre pays, qu'on a une telle manière de voir le monde, c'est grâce au christianisme. C'est le christianisme qui a été ici depuis presque 2000 ans, qui a formé notre manière de réfléchir. C'est par exemple ici, on est beaucoup plus balancé sur nos condamnations de peine. Pourquoi ? Parce que le christianisme a forgé notre opinion de la valeur d'autrui. Vous savez, la valeur de l'être humain, ce n'est pas du tout quelque chose qui est acquis sur la terre. Hein. Vraiment pas. Hein. Il y a des endroits où on met le feu à une personne pour une bêtise. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? La valeur intrinsèque de l'être humain, c'est un concept chrétien qui a influencé notre monde aujourd'hui, au point qu'aujourd'hui, même la personne la plus vile de la société va quand même recevoir du support. Comment ça se fait ? Dans la plupart des pays, elle meurt de faim, cette personne. Hein. Garantie. Hein. Okay ? Et donc, je me dis, on est le résultat du christianisme et on est aussi fainéant avec le christianisme. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quelque chose qui m'abasourdit. Comment ça se fait que les gens en Arabie Saoudite, et en Arabie Saoudite, si vous êtes musulman et que vous devenez chrétien, on vous coupe la tête hein, en public, c'est pas quelque chose de... Alors ça dépend, peut-être si vous êtes haut placé dans le gouvernement, on va pas vous embêter, mais dans le sens, si vous êtes quelqu'un de la population, en Inde, ils mettent le feu aux gens qui deviennent chrétiens. S'ils apprennent dans la famille, ils remettent le feu. Ils les brûlent vifs. Et ces gens vont quand même aller prêcher l'évangile sur les toits. Vous vous rendez compte, c'est quoi ce courage qui anime ces gens ? Quelle conviction ont ces gens ? Quel genre de vie vivent ces gens ? Quel genre de héros ces gens sont ? Alors oui, vous pouvez me dire, oui, mais Joachim, théologiquement, ils ne sont pas censés être détruits par la persécution. Oui, c'est vrai, la Bible est claire, vous êtes persécutés, mais pas détruits. Peut-être qu'ils ne marchent pas dans cette réalité-là. Mais en tout cas, je peux vous garantir qu'ils marchent dans la compréhension que Dieu et Jésus sont uniques et qu'ils sont seigneurs, bien sûr, les deux. Enfin, un seigneur, n'est-ce pas, c'est la même personne. Et qu'ils doivent vivre pour lui. Pourquoi est-ce qu'on ne vit pas pour Jésus-Christ? Pourquoi est-ce qu'on vit pour toutes les choses qui sont à côté? Regardez ce qui est écrit. À ceux qui ont reçu, on partage une foi de pareil prix avec nous, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ensuite, la Bible continue. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous voulez marcher dans la grâce et la paix aujourd'hui? Elle vous est multipliée par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Si vous voulez marcher dans la grâce et la prospérité, pourquoi? Des fois, j'en ai marre de cet évangile qui a compris que Dieu veut qu'on prospère et qui attribue la puissance de Dieu uniquement pour des choses complètement égoïstes. Je veux une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture. Vraiment, vous allez utiliser la grâce de Dieu pour ça? Non, mais sincèrement, je ne suis pas méchant. Oui, bien sûr, Dieu veut que vous ayez une belle voiture. Je n'ai rien contre le fait qu'on ait des belles voitures. Mais vraiment, on va mettre la grâce de Dieu en pratique pour ça? Pour un nouvel appartement? Pour une maison? Pour un travail? Vous pensez vraiment que Dieu vous aime si peu que ça? Vous pensez que l'amour que Dieu vous porte et la prospérité que Dieu vous donne s'apparentent à des choses qui passeront, qui disparaîtront sur le temps? Vous savez, votre voiture, la plus belle du monde. Gloire à Dieu pour votre voiture. Elle va disparaître au bout d'un moment. Il y a seulement votre âme et les âmes que vous aurez tirées avec vous au ciel qui resteront. Vous savez ça? Vous vous rendez compte? Même toutes ces choses, vous savez, on a une belle église. Je suis content, je rends gloire à Dieu pour l'endroit où on est. On a des écrans modernes, on a des pianos qui fonctionnent bien. On a une infrastructure sonore qui est très bien faite. Gloire à Dieu pour tout ça. Amen. Mais je peux vous garantir une chose. Ces choses-là vont disparaître un jour. Cette tablette que j'ai dans la main, ce costume que je porte, ces choses-là vont disparaître. La seule chose qui font qu'elles vont garder de la valeur, c'est si on les a utilisées pour l'œuvre de Dieu. C'est tout. Je vois des gens, vous savez, je vois des gens. J'ai le privilège d'être dans une industrie extrêmement lucrative. Et j'ai vu une personne, enfin vu, plutôt j'ai vu un cas, excusez-moi, je ne l'ai pas vu la personne. C'est une personne qui travaille dans un pays en développement, milliardaire. Des milliards de dollars, elle pèse, cette personne. Et je devais contacter son assistante pour quelque chose, et elle m'a dit, il est dans un lit mourant. Il est mourant dans un lit. Depuis des semaines, il ne bouge pas. Il est mourant. Et je me suis dit, cette personne pèse des milliards de dollars. Et elle est mourante. Peut-être dans les jours qui suivent, elle va se retrouver devant le Seigneur. Est-ce qu'elle est sauvée? Est-ce qu'elle a utilisé ses jours sur terre pour faire quelque chose d'utile? Ou est-ce qu'elle a juste voulu s'enrichir, cette personne? Je dis elle, mais c'est un monsieur, hein, mais je dis cette personne au niveau féminin. Ça me fait me poser des questions. L'argent, il vient, il part, vous savez. Et la plupart des gens sont complètement esclaves de l'argent, alors qu'on devrait être maître de l'argent. L'argent devrait être notre esclave à nous. Et la chose étant, c'est que les gens utilisent leur foi pour les choses complètement hors de Dieu. La Bible dit qu'on est prospère à tous égards, hein. Les gens l'attribuent toujours à l'argent, vous avez remarqué ça? Ils attribuent toujours la prospérité à l'argent. Ce qui est beau, moi je suis le premier à vous prêcher que Dieu vous veut riche. Je sais que Dieu vous veut riche. Quand vous regardez les hommes de Dieu dans la Bible et les femmes de Dieu, ils étaient tous fichtrement riches. Tous. Mais ils avaient tous en tête le royaume de Dieu. Vous savez combien a coûté le temple de Salomon, selon certaines estimations? C'est dur d'estimer exactement parce qu'il y a la main-d'œuvre, il y a le fait. Il y a quelqu'un qui est vraiment allé loin. Il a compté l'hébergement de la main-d'œuvre, vous voyez. Il a tout compté. Combien vous pensez que ça a coûté? 500 milliards de dollars. C'est beaucoup, hein. C'est plus cher que notre local, je peux vous dire. 500 milliards. Et pourtant, vous savez quoi? C'est presque le roi Salomon qui a tout payé avec David. Ils ont utilisé leur richesse pour l'œuvre de Dieu. Ils étaient très riches. Je vous garantis qu'ils étaient riches, hein. Aucun problème avec être riche. Dieu veut qu'on soit riche. Dites, Dieu veut que je sois riche. Dieu veut que vous soyez riche, mais c'est pour une utilité. Et des fois, j'entends les gens qui utilisent cette puissance de Dieu. Vous voyez? La grâce et la paix m'ont multiplié pour ma maison, pour ma voiture, pour mon job. Vraiment? Vous pensez que Dieu a donné cette grâce pour ça? La Bible dit Romains chapitre 1, verset 5, pas besoin de le mettre mon chéri. Hein. Romains chapitre 1, verset 5, que la grâce nous a été donnée pour l'obéissance de la foi dans les nations. Tout ce que Dieu vous donne par grâce, et c'est vraiment sans limite, hein. On parle d'argent à plus en finir, on parle de santé à plus en finir. Toutes ces choses-là sont pour l'œuvre de Dieu. Amen. Continuons juste, Jonathan. Verset 3. Regardez bien. Comme sa divine puissance... C'est tellement, tellement, tellement puissant. Nous a donné. Pas va vous donner, ou peut vous donner, ou veut vous donner. Nous a donné. Il a dit nous a donné, c'est du passé, regardez. Nous a donné tout. Tout. Le chrétien ne manque de rien. Tout ce qui regarde la vie et la piété. Mais comment est-ce qu'il l'a fait ? Il nous a donné par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu. Dieu vous a appelés par une gloire, par une vertu. Verset suivant. Par lesquels ? Alléluia. Donc il dit, regardez, Dieu vous a mis toutes ces choses. Et là, moi, je vais parler de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Dieu a prophétisé la venue du Christ pour vous prouver son absolue logique. Regardez, par lequel il nous a donné les très grandes et précieuses promesses. En fait, quand il dit « donner », ce n'est pas genre « je te fais une promesse ». Il n'a pas dit « il vous a fait des promesses ». Il dit « vous a donné une promesse ». Ça veut dire que la promesse a été accomplie en Jésus-Christ. Regardez. Et il dit « afin que par elle, par ces promesses qui ont été accomplies en Jésus-Christ, vous participiez de la nature divine ». Donc vous êtes participant de la nature même de Dieu. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ?« Ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise ». Verset suivant. Regardez. Donc là, il vient d'exposer. Il dit « Dieu vous a tout donné par grâce ». Vous êtes puissant et fort en Jésus-Christ. Il vous a donné la piété, il vous a donné la connaissance, il vous a donné toutes ces choses. Et il dit « pour cette même raison aussi ». Donc il dit « la conséquence de toutes ces choses, c'est y apportant tout empressement, c'est-à-dire avec beaucoup, beaucoup de vigueur. Joignez à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance. » Verset 6, mon grand. « À la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, et à la patience la piété. » Et ensuite, il dit au verset 7, « à la piété, l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. » Verset 8, « car si ces choses sont en vous et y abondent, » regardez, elles sont en vous par Jésus-Christ, amen, « mais elles doivent abonder hors de vous. » Regardez, « elles font que vous ne serez pas oisifs. » Ah, ça c'est tellement de chrétiens, ils sont oisifs. Ils sont comme ça, ils attendent que Jésus revienne pour je ne sais quelle raison débile. Ils vont rien faire et attendre que Jésus vienne les enlever. Vous savez, une personne qui ne met pas sa foi en pratique ne sera pas enlevée par Jésus-Christ. Hein, sachez-le. Hein, d'accord ? Il y a des chrétiens qui aiment Dieu, mais au moment de l'enlèvement, si notre foi n'est pas mise en pratique, la Bible est claire qu'ils seront laissés jusqu'à le deuxième enlèvement. Il y a un deuxième enlèvement, sachez-le, c'est dans la Bible. Hein. Donc du coup, je vais parler dans l'eschatologie maintenant, qui est l'étude de la fin des temps, mais sachez-le qu'il y a des gens qui sont oisifs et stériles pour ceux qui regardent la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a des gens qui ont accès à la connaissance, mais qui sont oisifs et stériles. Pourquoi ? Alors que la Bible, que le passage venait de commencer en disant « Vous avez la grâce de Dieu en vous. Ces choses vous ont été données pour la vie et la justice, pour la piété et la vertu. » Mais après, il dit, il y en a quand même des qui sont oisifs et stériles. Pourquoi ? Parce qu'on n'y met pas tout empressement. Mettons tout notre empressement pour le Seigneur. Vivons pour Christ. Il n'y a rien de mieux que de vivre pour le Seigneur. Amen. Il n'y a rien de plus victorieux que de vivre pour le Seigneur. Dieu veut toujours notre réussite. Dieu n'a jamais prévu de vous envoyer un malheur. Non, non, non. Dieu vous a envoyé la parole. La Bible dit, il a envoyé sa parole pour guérir, pas pour condamner. Amen. Jésus-Christ a dit, je suis venu non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par moi. Vous vous rendez compte à quel point c'est beau. Jésus-Christ veut votre succès. Et croyez-moi que vous allez marcher dans le succès quand vous marchez dans ce que Dieu a pour vous. Vous n'allez jamais voir un prophète dans la Bible qui n'était pas dans le succès. Même Jérémie, quand il a été mis en prison, tout d'un coup, le roi de Babylone arrive et il dit, le roi de Babylone qui était l'ennemi d'Israël, donc, hein, c'est juste dire, hein, et il dit, ce prophète Jérémie, faites très attention à lui. Et tout d'un coup, c'est le roi de Babylone qui promeut le prophète Jérémie. Vous vous rendez compte à quel point c'est puissant ? Alors qu'il venait de le mettre dans un puits avec de la boue. C'est quand même quelque chose. Hein. Continuons juste le verset 10. Ah pardon, verset 9, oui. « Car celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle et ne voit pas loin, ayant oublié la purification de ses péchés l'autrefois. » Est-ce que vous avez oublié que Jésus-Christ vous a sauvé ? Regardons, verset 10. Ou c'était jusqu'au 9, c'est juste ? Alors c'était le 9, c'est celui que je voulais. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc Jésus-Christ a prévu votre succès. Dites « je suis plein de succès ». Dites « je suis plein de réussite ». Dites « je déborde de prospérité ». Dites « je suis plein de focus pour Dieu ». Alléluia. Dites « je suis discipliné pour les choses de Dieu ». Dites « ma vie est arrangée et disciplinée ». Dites-le « ma vie est disciplinée ». Dites « je suis croissant à tous égards ». Et je prospère dans tout ce que j'entreprends. Dites « ma vie est le reflet de Dieu ». Dites je n'ai peur de rien. Alléluia. Masekeshata. Levez-vous et bénissez Dieu pour ce qu'il a fait de vous. Mazebroko sheta zebaya shata. Je te rends gloire, Seigneur, pour la vie de victoire. Répète après moi, je suis plus que vainqueur. Je réussis dans tout ce que j'entreprends. Dites je suis conscient du retour imminent du Christ. Au nom de Jésus-Christ, je marche dans la victoire. Alléluia. Est-ce que vous marchez dans la victoire? Vous pouvez rester debout quelques secondes. Vous marchez dans la victoire. Votre vie est le reflet de la victoire. Vous êtes discipliné et fort. Vous l'êtes. Vous l'êtes. Vous pouvez vous asseoir deux secondes. Vous êtes discipliné et fort. Si vous saviez à quel point mon but, là je parle au niveau personnel en tant que pasteur, mon but est de vous voir avancer et progresser dans les choses de Dieu. De vous voir progresser dans ce que Dieu vous a appelé à faire. Et la Bible est claire, les inquiétudes de ce monde vont venir voler ce que Dieu veut faire dans votre vie. Alléluia. Dieu est bon et veut votre réussite. S'il vous plaît, ne gâchez pas votre vie. Vous savez, ce n'est pas une répétition générale. Vous vous rappelez quand on était gamin, on avait les spectacles de Noël à l'école. Il y avait la répétition générale, on était guisés en poireaux et puis en je sais pas quoi, en sapin de Noël. Et vous n'allez pas être réincarné, ne croyez pas cette histoire. Les gens qui disent on peut être réincarné, c'est faux. La Bible dit qu'on ne vit qu'une seule vie, pour le Seigneur. Et Jésus-Christ est venu embellir votre vie pour une réussite constante et absolue. Amen. Donc vivez pour Dieu, soyez disciplinés pour les choses de Dieu. Et vous savez, c'est quelque chose qu'on proclame, on grandit dans la discipline, vous savez. J'ai eu une discussion avant le début du culte avec deux personnes sur le fait qu'on grandit dans la discipline, on grandit dans l'organisation, on grandit dans ces choses. Amen. Ne négligez pas le fait de grandir dans ces domaines-là. Je sais que le temps est proche et qu'on doit se dépêcher de faire un maximum pour le Seigneur, mais ça ne veut pas dire qu'on doit négliger les étapes. Progressez. Progressez. Ok ? Donnez-vous le temps de progresser, tout en ayant en tête le fait qu'on doit se dépêcher. Hein, je ne dis pas. Vous voyez, on a une vie seulement. Mais progressez. Améliorez-vous dans tous les domaines de votre vie. Laissez la parole de Dieu faire cette image en vous. Amen.